Semaine où j'étais soit dans d'autres églises, soit en vacances. Voilà. Ce matin, je vais reprendre la série de lectures que j'étais en train de faire avec vous dans l'épître de Paul aux Romains. Pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible ou leur smartphone, vous pouvez déjà vous préparer à lire à partir de Romains 6, verset 15. L'épître de Paul aux Romains. Une épître qui poursuit un double objectif. Une épître majeure dans l'Évangile. L'église de Rome est une église qui était inconnue de l'apôtre. Il ne la connaissait pas, ne l'avait jamais visitée. Si vous suivez tous les voyages missionnaires de Paul, il est allé dans le bassin méditerranéen, plutôt à l'Est, mais jamais à Rome. Et c'est pas lui qui avait implanté cette église. On imagine qu'elle avait été fondée par des chrétiens de la Pentecôte, des juifs qui étaient venus à Jérusalem à l'occasion de la Pentecôte et qui étaient repartis à Rome, puisqu'on nous mentionne que des gens venaient de Rome à cette occasion. Mais l'empereur Claudius, dans les années 40-44, a chassé tous les juifs de Rome. Parce qu'il faisait un peu du ramdam à cause d'un certain Christos. On suppose parfois que c'est peut-être à cause des chrétiens, justement, et Christos serait la version latine de Christ, qui est un mot grec à la base. Plus tard, les Juifs sont revenus à Jérusalem. À Rome, pardon. Et l'église de Rome était peut-être très divisée parce que les premiers chrétiens de Rome étaient des chrétiens d'origine juive. Peut-être ont-ils converti quelques païens à la foi chrétienne. Sauf que quand les juifs sont partis, c'est cool plusieurs années, et puis les juifs reviennent, et peut-être l'église à ce moment-là est composée de deux camps, ceux qui sont restés, ceux qui sont revenus. Et on voit que l'enjeu de l'articulation entre le judaïsme et le christianisme est un enjeu, un thème très important dans l'épître de Paul aux Romains, où il cherche à montrer comment est-ce que juifs et non-juifs se retrouvent unis dans la foi chrétienne et non pas divisés. Mais Paul a aussi un autre agenda. Il cherche à atteindre l'Espagne. C'est son projet missionnaire. Et pour cela, il écrit cette lettre aux Romains pour les préparer à le recevoir en tant que missionnaire et faire de cette église une base arrière pour son projet missionnaire. Pour le contexte de l'épître. Dans le développement où nous en sommes, Paul a expliqué en quoi la venue de Jésus est un changement radical de contexte, de situation, de relation, de cadre avec Dieu. On a vu il y a un chapitre que Jésus était réellement un nouvel Adam qui démarrait une nouvelle forme d'humanité. Et pour tenter de nous convaincre, enfin convaincre ses lecteurs, de ce changement total que le chrétien vit en appartenant à Jésus, il utilise trois exemples. Il va prendre l'exemple d'une plante qui est greffée à un arbre pour expliquer que nous avons une nature même, une nature humaine, qui est changée à partir du moment où nous recevons l'Esprit de Jésus. Dans un deuxième exemple, il va parler d'un esclave qui change de maître, qui change de maison. Dans un troisième exemple, qu'on verra peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui, il va parler d'une épouse qui perd son mari et qui épouse un autre époux. Le but étant de nous faire comprendre que nous ne devons plus rien à ce que nous étions avant de connaître le Christ et que nous pouvons complètement nous offrir à ce que nous sommes devenus en rencontrant le Christ. Je vous invite maintenant à lire. Nous allons voir aujourd'hui le passage qui concerne l'esclave qui change de maître. Je lis à partir du verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Oh, certes non. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, ben vous êtes esclave, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance de Dieu qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libre du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Mais alors, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Parce que lorsque vous étiez esclaves du péché, ah oui, vous étiez libre à l'égard de la justice. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur finalité, c'est la mort. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je voudrais vous lire un deuxième passage dans l'évangile de Jean, chapitre 8, très court. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Sommes-nous les esclaves de Dieu? Sommes-nous sa propriété, nous les chrétiens? Est-ce que Dieu nous a marqués au fer rouge comme on marque du bétail? Non. Paul le dit très clairement au milieu de ce passage. Je m'adresse à vous de cette façon pour que vous compreniez bien, parce que bon. Je suis pédagogue. L'image que Paul emploie pour décrire notre relation à Dieu comme celle d'un maître vis-à-vis d'un esclave est une image. Le texte que j'ai lu en Jean nous montre clairement que l'intention de Christ vis-à-vis de nous est bien de nous libérer de l'esclavage. L'histoire du peuple d'Israël est fondée sur un événement central qui est la sortie du pays d'Égypte, où Dieu répète à son peuple à plusieurs reprises « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de la servitude. » La parabole si bien connue du fils prodigue, ce père qui avait deux fils, il y en a un qui en a marre de vivre chez papa, il demande à son père de lui donner en avance la part d'héritage qui lui revient. Le père accepte, l'enfant s'en va loin, dilapide son argent, se retrouve complètement à la rue. Pris d'une soudaine lucidité, il revient à la maison et demande à son père de le prendre comme un esclave, comme un serviteur. Et le père répond non, je te reprends comme un fils. Et il le réinstitue dans toute la dignité qu'il avait auparavant. Donc je peux vous assurer que bien la dernière chose que Dieu veut vivre avec vous, c'est bien une relation de maître à esclave. De maître à esclave. Et pourtant, Paul emploie cette image pour s'adresser aux Romains. Alors dans la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à peu près le 2e siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, c'est 5 millions d'habitants, Rome, ou peut-être plus, enfin, j'avais calculé que c'était environ 30% d'esclaves qui habitent à Rome. 30%, c'est énorme. Une société qui est basée sur l'esclavage. Des esclaves de tout statut, des plus pauvres, des plus humbles, à des esclaves qui occupent des fonctions administratives très importantes. Des esclaves très maltraités, des esclaves très bien traités. Des esclaves dont leur maître tombe amoureux et épouse. des esclaves qui finissent par être affranchis, des esclaves gladiateurs superstars ou des esclaves galériens qui mourront dans des conditions atroces. Paul emploie l'image de l'esclave parce que c'est une image qui parle très bien aux Romains, parce qu'ils vivent dans une société qui en est remplie, où ils œuvrent à chaque échelon. Et quelle image emploie-t-il vis-à-vis de l'esclave ? Il dit, voilà, c'est comme si vous passiez d'un maître à un autre. Et selon la maison où l'esclave va être acheté et va travailler, son destin peut changer du tout au tout. Son destin peut changer du tout au tout. Dans certaines régions rurales, les maîtres achetaient des esclaves pour travailler au champ et avaient compris qu'en leur donnant un intéressement, c'est-à-dire il va leur donner une partie du prix de vente de la récolte, l'esclave travaillait mieux parce qu'il était intéressé à ce que la production soit abondante, parce que ça lui ferait gagner plus d'argent et le destinerait à être affranchi. Et dans d'autres cas, les esclaves étaient vraiment considérés comme des marchandisés, très violentés. Alors que dit-il ? Autrefois, vous étiez esclaves du péché. Aujourd'hui, vous êtes esclaves de quoi ? Il va dire de la justice, esclave de Dieu, esclave de l'obéissance à Dieu. Et dans tout cela, Paul veut articuler le fait que ce qui nous possédait autrefois avait des intentions envers nous, et ce qui nous possède aujourd'hui a d'autres intentions envers nous, et que c'est important. C'est fondamental, crucial, que nous en prenions conscience. Imaginez un esclave qui habite dans une maison où la violence, l'injustice, la compétition, la ruse, le mensonge sont les règles, les normes, les valeurs à partir de lesquelles tout est fabriqué, tout est construit. Un jour, cet esclave est vendu sur le marché et rentre dans une modeste maison où il est traité de manière beaucoup plus digne, où on ne ment pas, où on respecte. Va-t-il continuer dans cette nouvelle maison à pratiquer le mensonge, à pratiquer la ruse et la triche ? Ou saisira-t-il l'occasion, pour lui, de vivre une autre vie, dans un autre contexte ? Paul essaye de nous faire comprendre que ce à quoi l'homme sans Dieu est soumis n'a rien à voir avec ce que nous sommes appelés à vivre en étant soumis à Dieu. Vous avez obéi de cœur, dit-il aux Romains, à une règle de doctrine qui vous a été transmise. Vous êtes sous la grâce, frères et sœurs. Ça veut dire que vous ne serez pas sauvés par vos œuvres. Je pense que la plupart d'entre vous l'avez compris maintenant. Aucun d'entre nous n'arrivera devant Dieu en disant « Voici mon bulletin de notes ». Et Dieu va dire « Bon, tu es admissible au paradis ». Aucun d'entre nous ne passera devant Dieu avec une espèce de balance où on mettra d'un côté les mauvaises actions, de l'autre côté les bonnes actions, en espérant que le côté bonne action pèse plus lourd que les mauvaises. Toutes ces images, en fait, de bons points, mauvais points, de karma, sont pour nous chrétiens fausses. La seule chose que le Seigneur regardera lorsqu'il nous recevra, c'est ce que nous lui appartenons effectivement. Est-ce que son esprit habite en nous ? Et c'est pour ça que Paul soulève cette question. Mais quoi alors ? Est-ce que nous pourrions continuer à pécher sous prétexte que nous sommes sous la grâce et non pas sous la loi ? C'est une vraie question. Si je ne suis plus sauvé par mes œuvres, pourquoi est-ce que je vais obéir à Dieu? Qu'est-ce qui me motive à obéir à Dieu? Quand il y a la peur de la punition, de la sanction, de la réprobation, ok, je peux comprendre pourquoi je suis motivé à obéir, exactement comme un esclave. Exactement comme un esclave. Si un esclave n'obéit pas, que se passe-t-il? Il se fait frapper, punir, fouetter, voire pire. Certains finissaient crucifiés. Mais que se passe-t-il si je n'ai pas peur d'être sanctionné? Ai-je des vraies raisons d'obéir à Dieu? Et c'est peut-être ça que Paul veut nous indiquer. Votre obéissance ne sera plus la sanction par laquelle vous allez être sauvé ou non. La qualité d'obéissance ne va pas déterminer si vous êtes accueilli dans la vie éternelle ou non. Mais c'est bien par cette obéissance tout de même que vous allez cheminer, grandir et servir votre nouveau maître. Récemment, j'écoutais une vidéo sur ce qui s'est passé dans les plusieurs pays d'Afrique, notamment au Burkina Faso, où les Burkinabés ont clairement manifesté que l'influence française n'était plus du tout la bienvenue dans leur pays. Le journaliste posait une question en disant « Mais n'avez-vous pas peur de tomber sous la tutelle des Russes ou la tutelle des Chinois au lieu d'être justement en relation avec la France ?» Et il lui a été répondu « Avant, on n'avait pas le choix avec qui nous commercions. Maintenant, au moins, nous pouvons choisir. » La réflexion m'a paru très pertinente. Pour nous, les chrétiens, nous pensons que ce que nous vivions avant d'appartenir à Jésus était une illusion de choix. Avions-nous réellement le choix de nous déterminer? Avions-nous vraiment le choix de choisir les valeurs qui allaient nous motiver, les chemins que nous allions suivre? La Bible nous dit qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de réelle libération, il n'y a pas de réelle, de profonde illumination. Un regard qui est changé sur ce monde pour en comprendre réellement ce qui passe. Et soit dit entre nous, même nous qui sommes devenus chrétiens et qui avons reçu l'Esprit, nous travaillons toujours à dessiller nos yeux, ouvrir nos oreilles et élargir notre cœur pour comprendre le monde dans lequel nous sommes et le rôle que nous sommes appelés à y jouer. Mais tant que nous n'avons pas le Christ, les dés sont pipés. Et Joël l'a très bien rappelé dans sa liturgie, avec ce passage, tant que la mort rôde sur nous, son ombre, comme un spectre de finalité totale, après la mort, plus rien. Après la mort, plus rien. Alors, nos choix seront pipés. Nos choix seront limiter notre ambition et notre investissement dans ce monde sera bridé par cette crainte de tout perdre pour rien. Mais grâce soit rendue à Jésus qui nous libère de cette peur par sa propre résurrection. Car la résurrection de Christ, c'est la nôtre. Encore une fois, Joël nous l'a rappelé dans sa liturgie. Au jour où Christ reviendra, ceux qui sont vivants assisteront à la résurrection de ceux qui les auront précédés dans la tombe. Et tous, nous serons revêtus d'une incorruptibilité et d'une immortalité pour être complètement et définitivement affranchis, libérés de l'emprise, de la mort et du péché. Ça, c'est l'espérance fondamentale chrétienne. C'est pour ça que la croix, la résurrection de Jésus, chez nous les protestants, elle est vide, est vraiment l'événement central de toute la foi chrétienne. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, Paul le dit très clairement, tout ça ne sert plus à rien. Disons que c'est relégué au rang des bons livres de pensée morale ancienne intéressante. Mais si Christ est réellement sorti de la tombe, et si en sortant de la tombe, il nous garantit à nous aussi un jour de ressusciter, alors nous pouvons envisager la vie et nos combats sous d'autres aspects. Nous pouvons patienter. Nous pouvons choisir que, oui, cette ambition que j'aimerais vivre, ce projet dont je rêve, je le reporte à la vie éternelle. Ces choses que j'aimerais vivre maintenant, si je ne les ai pas ici-bas, comme on dit, ça ne veut plus dire que je ne les aurai jamais. Quelque part, les seules choses dont vous pourriez profiter ici-bas et dont vous ne profiterez pas dans l'éternité, c'est le péché. Pour le reste, je suis appelé en tant que chrétien à envisager ma vie sous un autre angle, c'est-à-dire, bon, je suis techniquement immortel. Je vais revenir à la vie et continuer de vivre, selon mon espérance, sur cette terre. Comment est-ce que ça peut changer ma manière d'aborder cette vie? Il y a quelques années, les jeunes avaient un slogan qui s'appelle YOLO, You Only Live Once. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Autant ne pas la rater. Mais la réponse chrétienne, c'est non. Je n'ai pas qu'une seule vie. J'ai une vie éternelle. Ce que Paul veut dire quand nous ne sommes plus esclaves du péché, justement, c'est si ma vie est limitée, si je n'en ai qu'une seule, si je ne fonderai qu'une seule famille, alors, bien sûr, je vais être prêt à tout sacrifier et tout peut-être combattre pour cette vie, ce foyer, ces enfants, et être en compétition avec le reste du monde. Mais si ma famille, si moi, mon épouse, nous avons cette espérance de ressusciter et de continuer de vivre, je ne vais pas arriver dans la vie éternelle et rencontrer mon épouse et dire « Ah mais qui êtes-vous, madame, mademoiselle ?» Je me souviendrai d'elle. Une personne une fois me disait « Mais quand on va ressusciter, on aura tout oublié. » Non ! Sinon, c'est une nouvelle forme de réincarnation. On efface tout, on formate le disque dur et on recrée une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Non. Le Christ a ressuscité et il se souvenait de chacun de ses disciples. De la même manière, vous allez ressusciter et vous vous souviendrez de tout. Même ce qui vous aurait fait honte, même ce qui aura été douloureux, parce que tout sera passé par le tribunal de Christ et aura été racheté par le tribunal de Christ. Et là où vous auriez été humilié, vous serez glorifié. Et là où vous étiez coupable, vous serez justifié. Et rien de votre passé ne sera lourd ou un fardeau ou quelque chose à cacher, parce que tout sera vécu au prisme de la gloire du Christ. Et toute votre histoire sera une ode à qui il est réellement. Et vous serez capable de la chanter et de la dire à tout le monde, juste pour magnifier le nom du Seigneur. Donc non, vous n'oublierez rien. Vous garderez tout, et tout sera pour sa gloire. Dès lors, Paul nous défie. Non, il n'y aura pas de coup de bâton si nous choisissons de ne pas obéir à Dieu. Si nous choisissons de ne pas obéir à Dieu. Mais vous êtes appelés à lui obéir pour lui glorifier. Vous ne lui appartenez pas comme un esclave, mais il vous a racheté de la mort que méritent nos péchés par son sang. Je reprends cet exemple que j'avais déjà cité dans une autre prédication. Imaginez un professeur dans une école supérieure. Voilà, il est professeur de physique. Et dans cette école supérieure, on choisit des filières, une école d'ingénieurs par exemple. Et certains ingénieurs, ben voilà, ils vont plus se destiner vers les maths et d'autres vont plus se destiner vers la physique. Mais tous doivent prendre cette UV de physique. Alors, pour ceux qui veulent faire de la physique, forcément, elle est fondamentale. Et pour ceux qui veulent faire des maths, elle est très secondaire. Et voici que le prof annonce au début de cours, écoutez, parce que je veux vraiment me concentrer avec vous sur la physique, voici ce que je vais faire. Je valide pour tout le monde l'UV. Vous aurez tous votre UV, aucun n'aura à la repasser. Et maintenant, on se concentre sur le cours. Mais tous ceux qui sont passionnés de maths se disent, c'est super, on ne va rien glander de l'année en physique et de toute façon, on aura notre UV. Et puis, tu as ceux qui sont passionnés par la physique, qui se disent, mais c'est super, on va pouvoir se concentrer sur la physique et vraiment profiter de la matière pour s'y plonger, quoi, sans avoir l'enjeu de la note sanction au-dessus de notre tête. Ceux qui aiment la physique trouvent cette libération de la note comme une opportunité d'explorer la matière, d'explorer et d'étudier avec passion et sans stress. Ceux qui n'en ont rien à faire de la physique voient dans cette UV déjà validée un prétexte pour rien faire. Votre note finale à l'examen d'entrée du royaume des cieux avec Jésus-Christ, elle est déjà validée. Elle est déjà validée. Pour nous chrétiens qui avons reçu l'Esprit de Dieu, il y a là une occasion de nous dire oh, alors je peux explorer le royaume, je peux explorer cette vie avec le Seigneur sans crainte de fauter, sans crainte de mal faire, de ne pas avoir su et d'être sanctionné. Et c'est pour ça que Paul dit quoi ? Pécherions-nous sous prétexte que nous sommes sous la grâce ? Mais non ! Allez-y, foncez. Ne continuez pas à vivre comme avant, mais au contraire, saisissez cette nouvelle vie qui vous est offerte. Et dans cette libération, il y a quelque chose d'important aussi que le Christ opère. Lorsque nous ne sommes pas habité par le Seigneur, ses passions du monde nous dominent réellement. Aujourd'hui, si l'Esprit de Jésus est entré dans votre vie, je vous rappelle que tous ceux qui sont ici présents, cela vous est promis. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez prier le Seigneur qu'il vous le donne. Et sa parole nous dit, et je vous le promets moi aussi de sa part, qu'il répondra à cette demande, positivement. Si vous recevez cet esprit qui vient habiter en vous et vous transformer, ces choses, ces passions, ces obsessions, ces addictions, ces habitudes indécrottables, ces travers que vous possédez, qu'on possède tous, ne vous dominent plus. Mais on n'y croit pas. Techniquement, la plante a été coupée et elle est en train de sécher. Elle n'a plus de puissance. Mais la puissance de l'habitude en nous fait que tant qu'on la voit là, on se sent soumis. Vous connaissez cette histoire que vous prenez un éléphanteau, bébé éléphant, vous lui attachez le pied à une corde, vous plantez un gros pieu dans la terre et l'éléphanto va essayer de tirer sur le pieu pour se libérer de son entrave et il n'y arrivera pas. Et plus tard, quand il sera plus grand, Si vous lui gardez cette habitude, vous aurez juste à lui attacher une corde au pied et à poser un bout de bois par terre, et il n'essaiera même pas de tirer. Convaincu qu'il est que ça ne marche pas, parce que c'est ce qu'il a appris. Dans notre vie, et je m'implique vraiment là-dedans parce que je vis la même chose, il y a ces choses qui nous dominent, ces péchés qu'on n'arrive pas à vaincre, ou sur lesquels on est dans un combat perpétuel et qu'on y revient, et c'est bien continuer ces combats. Et vis-à-vis desquels nous ne trouvons pas de liberté. Et pourtant, le pieu n'est plus planté. Pourtant, la plante a été coupée parce que le Christ nous a libérés. Mais j'ai cette impuissance acquise en moi. Et j'ai du mal à y croire. Et je le vois sur le papier, mais dans ma vie, j'ai du mal à y croire. Quand j'essaie de m'en convaincre, c'est là le pire. Quand je dis « Ok, tu es libre », je découvre une deuxième chose, pire que la première. C'est que souvent j'aime ce péché. Il fait un équilibre dans ma vie. Il a sa place, son rôle. Et que peut-être si mes prières restent sans réponse vis-à-vis de Dieu quand je crie « Délivre-moi !» C'est parce qu'au fond de moi, je n'ai pas vraiment envie d'être délivré. Heureusement, il y a la grâce. Alors, la prière change. On n'est plus en train de dire « Délivre-moi !» C'est « Seigneur, apprends-moi à t'aimer toi plus !» Il est fascinant de voir, si vous discutez déjà avec un ancien alcoolique, quand je dis ancien, on le reste un peu toute sa vie justement, la peur qu'ils ont de la puissance de l'addiction dont ils ont réussi à se libérer. Ils connaissent la puissance, ils connaissent l'impact que ça a sur leur vie, et ils craignent d'y retoucher. Mais avant d'avoir ce rapport de peur, et de crainte vis-à-vis de l'addiction, elle était structurante pour leur vie. Et ils l'aimaient. Parfois, vis-à-vis de notre péché, nous peinons à voir que, ben, en fait, je l'aime. C'est bien le problème avec le péché. Mais sur toutes ces choses, frères et sœurs, nous sommes libérés, délivrés. Et même nos fautes, ne nous sépareront pas de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Donc nous avons devant nous un vaste chantier, fondé sur la grâce, non pas sur la performance, non pas sur la rentabilité, non pas sur la profitabilité, mais sur la grâce. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous lui rapportions quoi que ce soit. Dieu ne nous a pas sauvés pour obtenir un retour sur investissement, sinon le brigand sur la croix aurait été un très très mauvais investissement, puisqu'il a été un brave chrétien pendant 3 heures. Dieu ne nous a pas sauvés pour faire de nous des esclaves profitables et rentables, mais Dieu nous a sauvés pour faire de nous ses fils et ses filles, ses princes et ses princesses, destinés à hériter du trône du monde et à régner à ses côtés pour toujours. Et cet apprentissage du règne de Dieu commence aujourd'hui par l'apprentissage de la liberté en Christ. Frères et sœurs, soyez bénis dans ce chemin, soyez persévérants dans ce chemin et n'oubliez pas, tout est fondé sur la grâce. Amen.
Voilà, je vous invite maintenant à un temps de prière d'intercession. Intercession, c'est prier pour les autres, prier pour ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'aide. Et je vous propose que on puisse le faire aussi en temps de prière libre. Si vous avez un sujet à cœur, si vous avez un sujet où vous voulez intercéder, n'hésitez pas à le faire haute voix, puis je conclurai cette prière. Prions. tu nous donnes la possibilité de te prier. Nous savons que tu peux faire de grandes choses, Seigneur. Nous savons que tu es à l'écoute de ce que nous pouvons te dire aussi, Seigneur, dans nos prières. Et c'est vrai, nous voulons te remettre les personnes en deuil, Seigneur, et que tu puisses relever, que tu puisses soutenir, Seigneur, dans ces moments tellement difficiles. Merci de veiller sur nos personnes âgées aussi, Seigneur, dans ces temps d'été aussi, où peut-être les enfants sont en vacances et on voit un peu moins de monde, Seigneur, que tu permettes par ta présence aussi, Seigneur, de faire du bien. Merci de garder nos autorités. On va te remettre cette fête aussi à vos vers, Seigneur, que tu la préserves de tout mal, Seigneur. Merci de veiller sur nos autorités aussi, Seigneur, que tu puisses là aussi diriger, Seigneur, inspirer, donner les bonnes directions, Seigneur. Merci de nous garder chacun dans cette semaine avec tout ce qu'on a pu entendre de toi encore, Seigneur, et que ça puisse vivre dans nos cœurs, dans la semaine, Seigneur. Amen. Je vous invite à un chant, et puis on finira par la bénédiction.